pleine gueule et quelqu'un pousse un cri. Y'a du partout dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Pas de son commencé à l'aile gauche de la tour. Déjà tous mes potes mettent à saccager les pions. J'ai dit allez les mecs, on se paye une petite fête. Fait que j'arrive les lardus avec des mitraillettes. Et y'a du baston dans la tour. Les mecs, ça va saigner. Pour les mains qui disent, sortez de la bande de rats. C'est un temps pour l'armée si vous arrêtez pas. Allumettes, on va tout faire cramer. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Dans les gaz suffocants. On a tous dérouillé, mais maintenant de temps en temps, y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Allez avec moi. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, vous êtes bien à l'écoute de L'Envolée, comme tous les vendredis soirs sur Fréquence Paris Pluriel, et en rediffusion un peu partout en France, dans plein de radios locales qu'on remercie encore une fois. Y a du monde autour de la table, tout d'abord il y a Jade.
Salut.
Il y a Rose.
Salut.
Il y a Inès qui est au bocal.
Salut.
Il y a Louise.
Salut.
Et Serge qui vous salue. Donc L'Envolée c'est quoi? L'Envolée c'est une émission qui donne la parole aux prisonniers et leurs proches pour relayer les luttes. Leur lutte qui se passe à l'intérieur, qui mène contre le sort qui leur est généralement fait. Voilà, donc on considère qu'il y a beaucoup de lieux d'enfermement, enfin il y a trop de lieux d'enfermement de toute façon, voilà, mais en tout cas on parle des hôpitaux psychiatriques, des cellules de garde à vue et aussi des CRA, donc les prisons pour étrangers et les tôles tout simplement, maison centrale, maison d'arrêt et CD. Voilà, et puis on parle de manière générale aussi un peu de toutes les violences d'État, parce que tout ce qui en fait fait qu'on va t'amener dans ces lieux d'enfermement et que ça souvent en général, enfin, c'est pas souvent, ça se passe toujours, c'est toujours les keufs qui te courent après pour pouvoir te foutre à l'intérieur, quoi. Donc voilà. Pour ça, vous pouvez nous écrire, enfin donc de l'intérieur, on lit vos lettres à l'antenne et tout ça, mais donc pour nous contacter sur le téléphone, là en direct pendant toute l'émission, c'est au 01 40 05 06 10. Vous pouvez aussi nous écrire, nous appeler ou nous envoyer un texto. Il n'y a pas les applis sécurisées au 07 53 10 31 95, 07 53 10 31 95. Vous pouvez aussi nous appeler, nous contacter par mail à contact podcast@l'envolée.net et les réseaux sociaux Insta, Twitter et Facebook. Et pour finir, par lettre, nous écrire à l'envolée-fpp, 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris. Grosse émission ce soir. On va commencer avec deux lettres. Après, derrière, on va parler du procès à venir qui va y avoir, enfin l'audience qui va y avoir au tribunal administratif la semaine prochaine, vendredi prochain, de nous qui avons attaqué la paix pour les censures et les interdictions de journaux qu'il y a eu. Et on terminera par le procès de Nordine qui a eu lieu à Bobosch, à Bobigny, hier. Donc voilà. On commence par une lettre de Bambina.
Ouais, c'est une lettre qui date du 26 septembre 2024 et qui nous vient des Baumettes. Coucou l'envolée. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Je tenais à vous remercier pour ce que vous faites pour nous. Je suis incarcérée depuis 2021, je suis aux Baumettes depuis 2023. Une tôle qui me rend ouf. J'ai plus de respect suite à des SS qui en ont pas pour moi. Les conditions, c'est juste invivable. Entre les cafards qui nous envahissent, entre faire le boulot des SPIP ou courir derrière d'autres services. C'est un truc de ouf. Je suis choquée. J'aurais jamais pensé vivre dans ces conditions-là. Entre le manque de soins, le manque de personnel où nous en subissons les frais. On écrit, ça met plus de 10 jours pour arriver. Ou pire, ça reste sans réponse. J'ai l'impression qu'ils me tuent à petit feu. Je suis plus qu'à bout, tu n'as plus la valeur de la liberté, on te coupe de tout, même de ta famille. On te transfère comme des merdes. Depuis 2021, j'ai fait 8 transferts pour le motif qu'il y avait trop d'extraction médicale. Je suis diabétique de type 1 avec de l'insuline. Cette détention m'a détruite. Tu leur dis tu vas mal, ils s'en foutent royal. J'ai une amie qui avait signalé à plusieurs reprises que je pouvais faire une TS. Personne n'a pris les choses au sérieux. Pour le dire, Luxa m'a donné des stylos d'insuline chaque semaine, alors qu'un stylo te dure un mois, au final. J'ai sombré le 5 février 2024. C'est ma pote du CD1 Zouzou qui m'a pu me sauver. Je me suis retrouvée en réa jusqu'au 12 février 2024. Je re-rentre au Baumettes et monte à Luxa et hop, je récupère mes insulines, alors que je n'avais pas le droit. Bref, le 17 février, je retombe, mais cette fois, ben c'est grâce à une autre détenue qui savait avant la fermeture que j'étais pas bien. Au final, je me suis retrouvée dans un coma du 17 février au 22 février et je suis rentrée au Baumettes. Suite à ça, ben le 5 mars, à mon retour au CD1 module ouvert, on m'a dit « T'as fait 2 TS, ben tu vas redescendre du CD au CD0 module fermé. Abusé. Aujourd'hui, j'ai ma famille qui est en recours face à toutes ces fautes, etc. De plus, ils n'ont contacté personne de ma famille. Je vois des choses complètement choquantes, où mon amie avec des pathologies énormes, où elle ne peut avoir des permes ou les soins qu'il lui faut. Autre chose, savez-vous que quand tu fais une perme et que tu appelles pour prévenir du retard, quand tu rentres, on te met un CRI. On marche sur la tête. C'est ce qu'a eu une amie à moi. Ou les prix coûteux des appels, les messages vocaux qu'on paye. Les draps sont devenus payants. Bientôt, on va payer pour aller aux chiottes XPTDR. Je reviendrai vers vous avec plusieurs étapes, parce qu'il y en a des choses à dire entre ces murs de l'enfer. Si vous avez besoin de temps ou des questions, n'hésitez pas, c'est avec plaisir. Bonjour à Jade, Rose, Jojo, Serge, K. Je vous embrasse. Bambina.
Bah écoute, merci beaucoup. Voilà, et puis bah, vu que tu nous écris de Marseille, et puis la manière dont tu nous salues tous, c'est que on pense que t'écoutes, donc vraiment un gros big up à toi. Que dire à part envie de quand même putain taper très très fort dans des murs là. Voilà, parce que quand même quand tu décris, bah voilà. Deux moments de faiblesse, enfin voilà, je sais pas quand, en tout cas comment le formuler, mais en tout cas le fait qu'il y ait des moments où ça allait pas bien et qu'après derrière de toute façon ça soit utilisé comme un outil de répression, en fait ça rend toujours ouf, voilà. Et en fait je sais pas, j'ai un peu l'impression de, enfin je dirais un peu le bail comme ça dans ce que tu nous racontes, de à quel point en fait c'est vraiment ce truc de, enfin tu le dis à un moment que en fait bah il s'occupe, enfin il y a personne qui s'occupe de vous et tout ça quoi, et en fait j'ai un peu l'impression de ce bail là en fait avec toi, bah enfin toi tu y es pour rien, si t'es enfermé c'est des juges qui ont décidé ça et tout, Et tu n'y es pas non plus pour grand chose le fait d'avoir du diabète. Voilà, tu te retrouves à subir deux fois le truc. Voilà, et donc bien sûr que ouais, bah, avoir du diabète en détention, ça nécessite d'avoir un suivi un peu plus poussé, de sortir de sa cellule plus régulièrement pour pouvoir aller au médical, ce genre de trucs. Tous ces trucs en fait qui font chier l'administration pénitentiaire et qui font chier ces agents. Et en fait, bah, là, c'est ce que tu décris avec les 8 transferts, c'est que en fait, bah, vu que c'est des putains de gros feignants, voilà, ça les saoule de devoir aller faire des extractions médicales et tout. Et donc là, t'as dû les faire chier quand les deux fois ils ont dû t'y amener récemment. Et donc après derrière ils se vengent. Et ça c'est vraiment proprement insupportable et intolérable quoi. Donc voilà, et je pense qu'en fait tu mets bien le doigt là sur ce truc de ouais, tu leur demandes de faire quelque chose, enfin voilà, et ils doivent faire quelque chose pour toi. Et on rappelle hein, que ça fait partie en fait de les raisons pour lesquelles ils sont beaucoup trop grassement payés, qu'ils doivent s'assurer de la sécurité des gens qu'ils enferment, voilà. Et donc bon bah voilà, ça fait partie des trucs quoi, donc voilà.
Par ailleurs, cette histoire de transfert, c'est aussi une galère pour toi, parce que quand t'as du mal à accéder déjà aux soins en détention de manière générale, mais en fait à chaque transfert c'est aussi une recommencer les galères pour avoir accès aux soins, parce que du coup t'as en face de toi des nouveaux matons, des nouvelles infirmières, des nouveaux médecins qui faut réexpliquer. Il y a des personnes, des prisonniers qui racontaient que quand ils arrivaient dans une nouvelle tôle, des fois il y avait plusieurs semaines avant de pouvoir réaccéder à leur traitement et tout. Donc le truc de te transférer parce que ça les fait chier de faire les extractions médicales, toi en plus ça te met dans une galère de ouf en plus, question santé quoi.
Oui, puis ce que tu racontes bien aussi, c'est, je trouve que ce qui est assez frappant dans ta lettre et tout, et en vrai c'est, enfin, merci aussi d'avoir le courage de dire tout ça, parce que ça doit pas être non plus très très facile de l'écrire. C'est aussi l'accumulation des choses en fait. Peut-être les gens à l'extérieur ils comprennent pas forcément ça, mais en fait ta lettre elle montre bien ça en fait. Comment en fait le manque de soins, le fait que t'aies pas assez de stylos pour l'insuline, le fait que t'aies des refus de perme à l'intérieur, que en fait tu passes en module fermé quand tu fais 2 TS, les séries quand t'es en retard, en fait c'est toute cette accumulation de choses que tu montres très bien, et en final en fait c'est la tôle qui te fait craquer, tu vois, et c'est, enfin, il y a rien de plus à rajouter que ça quoi.
C'est la tôle qui te fait craquer, et après la tôle te punit d'avoir craqué quoi. Parce que là en fait c'est vraiment les matons qui te disent bah on te punit d'avoir fait des tentatives de suicide. Et en fait ça rappelle d'autres histoires qu'on avait racontées à l'antenne. On avait, je pense il y a quelques mois, on avait mentionné cette histoire d'un prisonnier qui fait une tentative de suicide, et en fait du coup il finit au mutard. Alors que c'est un endroit où a priori il y a encore plus de chances de suicider quoi. Et donc ça c'est vraiment un truc de ouf. Et par ailleurs là, ce que tu racontes c'est que les deux fois t'as été sauvé par une autre prisonnière, mais qu'en fait le truc de te punir en te mettant dans un module fermé, c'est pas ce que tu dis, mais on a un peu l'impression qu'en fait ça augmente aussi le risque, parce que ça veut dire que t'auras moins de contact avec d'autres prisonnières, donc moins de possibilités aussi d'avoir de la solidarité si à un moment tu vas pas bien et tout quoi. Donc c'est quand même un truc de ouf, parce que ça augmente en fait aussi le truc que tu auras pas d'aide si tu recraques quoi.
Bah ouais, ça c'est vraiment mais hallucinant quoi. C'est clair que ça va pas aider. Et puis après en fait il y a tous les autres trucs aussi qui pour tenir à l'intérieur et que ça soit supportable. C'est cool s'il y a un peu de, enfin s'il peut y avoir un minimum d'extérieur qui vienne. Et en fait tous les transferts et tout ça que tu subis en fait, ils participent de ouf à détruire les liens familiaux. Déjà quand t'es une meuf enfermée, bah en fait généralement vu que c'est les meufs qui font ce travail de soutien de l'extérieur, bah quand t'es une meuf, tu te retrouves généralement beaucoup plus isolée. En plus, il y a peu de bâtiments qui sont où il y a des CD et tout ça pour des CD pour femmes. Et donc t'es toujours encore beaucoup plus loin de ta famille, et si en plus t'es transféré 8 fois de suite, c'est du délire quoi. Donc voilà, et encore, enfin voilà, et donc les solidarités elles sont obligées de se faire avec des gens à l'intérieur, et c'est ces personnes là qui vont te sauver et autres quoi.
Et puis les lettres qui passent pas aussi, enfin c'est ça aussi, ça vient bah, juste encore plus épuisées, enfin tu qui passent pas ou qui mettent 10 jours à arriver ou tu sais pas si elles sont arrivées, ça vient encore quand tu t'es fait transférer 8 fois, que tu es sans doute loin de ta famille en fait, ça vient encore encore plus affaiblir ces liens là quoi, et c'est surtout le stress que les gens ils aient pas reçu ton courrier, enfin tout ça, et c'est ce que tu racontes très bien quoi.
Mais que même ce truc de pas contacter la famille quand il t'arrive des trucs comme ça, en fait ça nique aussi le soutien que tu pourrais recevoir à des moments qui sont quand même hyper difficiles quoi.
Et puis c'est quoi ce bail, 10 jours pour des courriers? Mais c'est du foutage de gueule intersidéral quand même. Enfin, c'est hallucinant quoi.
Oui, puis on sait comment fonctionne la paix et qu'en fait ils se vengent sur certaines personnes et tu ouais. Enfin, c'est aussi peut-être ça qui se passe là aussi, c'est que en fait c'est des manières de faire souffrir et ils savent très bien où taper en fait, ils savent très bien la taper où ça fait mal en fait.
Et au moment où ça fait mal.
Clairement.
Et ouais, et puis ce truc de passer de régime ouvert à régime fermier, enfin vraiment, c'est une vraie sanction dans les yeux de. C'est aussi une sanction dans les yeux de l'administration pénitentiaire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a ce truc de voilà, c'est une sanction qui dit pas son nom. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux pas y faire de recours, tu peux pas la contester, ce genre de truc et tout ça. T'as pas d'avocat au moment où c'est décidé, tout ça. Enfin bon, voilà, c'est tout le truc. C'est ce qu'ils appellent les mesures d'ordre intérieur. Mais en tout cas, l'administration pénitentiaire, elle sait très bien ce qu'elle fait à ce moment-là, elle sait très bien que c'est une sanction qu'elle t'applique et donc elle sanctionne le fait que bah t'es fait de tentatives de suicide et tout. Et ça, je sais pas en fait, il y a pas de mots à ça, c'est hallucinant, mais c'est malheureusement ultra classique. Voilà. Mais parce que tu les as fait chier, donc dès qu'il y a quelqu'un qui considère que tu le fais chier, ils vont trouver plein de manières de se venger, quoi.
Oui, et puis il faut rappeler que la souffrance dans cet endroit est leur entière responsabilité. C'est ça qu'il faut rappeler, en fait. Si les gens souffrent dans cet endroit, c'est à cause d'eux. Et je pense que c'est important de remettre la faute là où elle est et là où elle doit être, en fait. Et on n'a pas besoin de parler plus que cette lettre, parce que cette lettre, elle le montre très très bien.
Ouais. Bah, en tout cas, déjà, quand même, ça fait plaisir que ta famille, quand tu dis qu'elle est en recours, ça veut dire quand même qu'ils sont là et qu'ils te soutiennent. Donc, quand même, c'est chouette. Et voilà. Et puis, bah, comme on a l'impression que tu nous écoutes, on est content de t'envoyer plein de force en direct. Et puis, bah, comme tu dis que tu vas nous réécrire, bah, on est super content. On attend d'autres de tes lettres.
De ouf.
Ouais, franchement, et surtout. Plein de force quoi, voilà, et on espère que voilà, d'avoir entendu ta lettre et autres, et puis de voir qu'en fait tu vois, à l'extérieur il y a du monde qui t'entend et tout ça et qui écoute, et enfin voilà, nous on est chaud de continuer cette discussion à travers tes lettres, puis nous on te répondra de cette manière là avec les micros et tout, voilà, et que tu puisses nous entendre, bah vas-y, trop chaud, et pas hésiter, ouais, à continuer tout ça, parce que je pense que c'est chouette. Force à toi et puis à tout le monde. On va passer à une deuxième lettre qui est celle d'Aurélie.
Ouais. Bonjour l'Envolée, j'espère que vous allez bien, toute l'équipe de l'Envolée, et que vous avez passé de bonnes vacances. Je pars au CNE en fin d'année. Je vous donnerai des nouvelles, pas de soucis. Cet été, surpopulation plus à Vivonne. Nous étions 890 pour 500 places. Ils, Vivonne, n'ont pas voulu fermer leurs portes. Là, ça commence à se vider un peu. Hier après, je suis allée à Luxa pour avoir mes nouvelles lunettes et une docteure avait du temps libre car la patiente qu'elle n'attendait n'est pas venue. Et comme moi, ça fait une semaine que j'attends pour voir un médecin, je lui ai demandé si elle pouvait me prendre. Elle a regardé sur son ordinateur. Vous êtes prévu en octobre en urgence, c'est ce qu'elle dit. Ah, super. Donc, pas vu le médecin et après, elle disait tout haut et fort... Il y a plein de refus aujourd'hui. Bah alors, et moi, je suis là. Et si je suis sur la liste des urgences, c'est qu'il y a une raison. Vive Luxa. Et avant-hier, mardi, l'après-midi, la surveillante mouvement devait à partir de 15h. Du coup, elle a avancé tous les RDV des détenues femmes sans nous consulter. Elle a pris la décision juste elle et un surveillant Luxa SMPR. En plus, elle nous a pressés. Non mais oh, on va où? Du grand n'importe quoi à Vivonne. Samedi, un mec s'est suicidé. Un de plus à Vivonne. Sinon, quelques surveillantes cherchent toujours à me faire craquer. J'ai envie de tout arrêter, j'essaie de tenir pour ne pas leur donner raison. C'est difficile. Je pleure souvent. Voilà les news. Bonjour à toutes les détenues et tous les détenus, ainsi qu'à leurs familles. Battez-vous, la sortie arrivera. Courage. Merci de vos soutiens. À très vite. Aurélie.
Bah, merci beaucoup. Bah, tout d'abord, ouais, peut-être te transmettre plein de force et tout ça, parce que c'est sûr que si t'es un peu sur le dos, les matons et tout, c'est toujours des périodes vraiment... vraiment particulièrement insupportable, quoi. Peut-être sur les trucs qui sont parlés dans la lettre, peut-être commencer sur les refus qu'il y a de voir le médical et tout ça. Rappelons que quand même, généralement, pour l'essentiel, ces refus, c'est pas des refus, c'est qu'en fait, généralement, les matons, ils sont pas venus te chercher, quoi. Et tout, et que c'est quand même vraiment... Enfin, ça n'arrive jamais en fait que les médecins ils se déplacent à l'intérieur de la cellule pour s'assurer qu'il y a un réel refus du patient ou pas. Voilà. Après, je sais pas, on a un peu envie de rire de ce bail de. On va la voir en octobre en urgence. Voilà.
La lettre elle date de mi-septembre.
Ouais, donc la.
C'est quoi leur notion de l'urgence, quoi? Enfin, c'est aussi une médecin qui est en mode. Bon, j'ai mon temps, je vais rien faire en fait. Là, clairement, j'aurai le temps de te prendre. Enfin, c'est aussi du foutage de gueule, quoi. Et que même les médecins, s'ils sont un peu sérieux dans leur métier, tu te dis, bon, ok, genre, je dois voir quelqu'un en urgence en octobre. Enfin, et tu te dis, bon, bah, j'ai le temps, tu vois. Mais en fait, non, parce que ça montre encore une fois qu'ils s'en foutent de la vie des gens, quoi.
Mais du coup, ça répond bien à cette histoire de Maton qui doit partir à 15h pour on ne sait quoi et qui du coup bouge tous les gens n'ayant rien à foutre. Donc, ce truc en fait, quand genre les Matons ont des trucs à faire, en fait, enfin, genre veulent pas faire un truc, c'est les prisonniers qui subissent les conséquences de ça, quoi. Et ça renvoie à une autre lettre qu'Aurélie nous avait envoyée où elle nous décrivait ses conditions de taf qui étaient grave abusées et tout. Ouais. Où en fait, on avait l'impression que juste il y avait Maton qui était en mode non, mais en fait, ça me fait chier de faire ça, du coup, je le fais pas. Et en fait, c'est Aurélie qui en subit les conséquences, quoi. Ouais.
Oui, ouais, c'est ce qu'elle raconte.
Ça fait longtemps qu'elle dit qu'elle est juste poussée à bout constamment et ça a grave des conséquences sur elle. Enfin, genre juste, ça dure depuis longtemps un peu ce qu'elle vit. Et donc, en vrai, cool quand même la nouvelle de « Elle bouge au CNE en fin d'année
». C'est la bonne nouvelle de cette lettre. Ça fait super longtemps qu'Aurélie, elle nous dit qu'elle a trop hâte de bouger au CNE pour espérer être ailleurs qu'à Vivonne, parce qu'elle veut partir de Vivonne. Donc en vrai, bah faut quand même tenir jusqu'à la fin de l'année. Et c'est jamais des trucs qui sont hyper sûrs. Hein. Des fois, ils disent tu vas partir, en fait, tu pars pas, machin. On sait jamais trop. Mais c'est quand même une bonne nouvelle. Et donc on espère que les derniers mois à Vivonne vont pas être trop hardcore, quoi.
Oui, puis tu te doutes que dans une tôle cet été où ça a surenfermé à mort, où il y a eu 800 personnes qui étaient enfermées à la place de 900 pour 500 personnes, tu te doutes aussi de genre que les conditions d'enfermement elles sont encore pires que mais même déjà quand elles sont pires de base, mais voilà quoi, c'est tu te doutes de ce que ça crée.
Et juste pour dire qu'en fait là apparemment Aurélie voulait aller voir la médecin pour des histoires de lunettes et qu'en fait ça pourrait sembler un petit bail mais que c'est pas du tout un petit bail en prison et que des fois ils font galérer les gens pendant des années et qu'Emmy nous avait raconté ça, qu'il avait attendu 4 ans pour avoir des lunettes. Et en fait en détention c'est aussi un endroit où genre tu perds de la vue progressivement au cours de ton enfermement juste parce qu'il n'y a pas assez de lumière, que tu galères et tout. En fait, faire galérer les gens pour des lunettes, c'est quand même un vrai truc.
Et que tu vois jamais loin, enfin qu'il y a un truc de juste ton œil il se déshabitue totalement et en fait juste pas pouvoir voir, c'est tellement handicapant. Enfin ouais, tu peux même pas lire le courrier, répondre rien que pour écrire cette lettre là en fait c'est trop chiant, quoi.
C'est quand même ouf cette surpopulation qui va même chez les meufs et tout ça. Enfin, elle nous racontait quand même les matelas par terre dans les dernières lettres et tout ça. Voilà, il y a eu encore eu cette semaine les chiffres. Donc ça avait baissé de moins de 100 personnes en août, mais là ça s'est reparti encore à la hausse et tout ça. Enfin, c'est vraiment, on avait parlé dans l'édito il y a deux numéros si mes souvenirs sont bons. Ce truc de, on continue à augmenter le nombre de personnes qu'on enferme, mais c'est vraiment hallucinant, quoi. C'est un trou sans fond. Qu'on continue et avec des conditions, voilà, et on en parlera peut-être un peu en fin d'émission, mais avec ce bail quand même très très chelou où maintenant les matons se retrouvent presque, on va peut-être pas dire soutenir les mutineries qu'il va y avoir à l'intérieur, mais presque, comme ça a été le cas à Nîmes cette semaine là, où quasiment les matons disaient ouais, non, mais ils ont raison de bouger là, parce que franchement c'est l'enfer.
Ça veut dire quelque chose de la période aussi, enfin du moment dans lequel on est, et que en fait que ça crée ce genre, enfin c'était, ça a jamais été le cas, enfin les matons n'ont jamais soutenu des mouvements collectifs. Et que juste là, ça montre combien la situation à l'intérieur est catastrophique aussi.
Ouais, bon après c'est toujours de toute façon eux ils ont toujours joué le jeu. Enfin ça fait un petit moment qu'ils jouent le jeu sur la surpopulation et tout ça quoi. Là c'est juste que enfin en fait on sait pas comment ça s'est passé précisément à Nîmes parce que le seul relais qu'on a c'est de la part des matons et tout quoi. Mais en fait des mouvements collectifs de personnes qui demandaient une amélioration de leurs conditions de détention voilà cet été là pendant la canicule pour plusieurs douches je sais plus où est-ce que c'était
c'était à Reims
mais donc là les matons par contre ils soutenaient pas parce que ça leur demandait trop de travail et après derrière ils s'en plaignaient en fait le truc c'est que ils vont utiliser en fait la situation dans laquelle ils vont mettre les prisonniers à leur avantage et tout ça et en fait il y a aucune solidarité entre les différentes tôles et tout ça et donc ils disent juste vous les transférez vous les envoyez ailleurs et tout ça pour que nous on en ait moins dans notre tôle et tout et c'est là-dessus que
et vous recrutez des matons et vous en construisez des nouvelles quoi. Ouais.
Donc c'est toujours ce même bail mais donc là en tout cas c'était les matons qui étaient bien contents de faire sortir le truc et qui parlaient de cette mutinerie de manière plutôt positive, voilà. Après, voilà, ce serait, c'est aussi ce genre de moment où c'est important que les premiers concernés, ceux qui se mettent en danger, en fait, là-dessus, c'est compliqué d'avoir toujours les moyens de ça, mais toujours qui réussir à exprimer ce qu'ils veulent à l'extérieur, parce qu'en fait, sinon, ça va être rattrapé par la matonnerie et qui elle va en fait vendre son propre bail à elle quoi voilà et je suis pas sûr qu'en fait les prisonniers ils ont les mêmes revendications sur comment faire qu'il y ait moins de prisonniers à l'intérieur que ceux des matons quoi.
Et c'est pas parce que les matons utilisent un mouvement collectif de prisonniers pour dire leur propre bail que y a pas eu de répression sur les prisonniers qui ont fait ce refus de remontée de promenade à Nîmes quoi parce qu'ils leur ont quand même envoyé les Eris et après on sait pas trop ce qui se passe dedans mais ça veut pas du tout dire qu'ils se sont pas pris de la répression dans la gueule après ça, quoi.
Ouais, c'était pas. Bon, en tout cas, c'était là-dessus qu'ils étaient pas très clairs, de manière très étonnante, voilà, dans la presse. Ils étaient là, ouais, bon, ils ont plutôt raison et tout ça. C'est la cata, mais voilà. Mais donc,
mais je pense que c'est bien ce que tu racontes, c'est que ça leur laisse le monopole du discours, en fait. Mm. Enfin, du coup, c'est eux qui parlent et en fait, c'est aussi une utilisation de des revendications qui ont été une invisibilisation comme d'habitude de ce que disent vraiment les prisonniers à l'intérieur quoi qui n'est pas les mêmes que celles des matons.
Puis ils prennent pas de risque en fait. C'est plutôt tout bénéf. Ils sont placés pour les pauvres petites victimes de ce qui vient de se passer. Voilà et puis tu vois ils vont pas avoir ils ont pas le droit de grève et tout ça mais en tout cas enfin voilà, ils vont pas faire tous les trucs en fait qui va pouvoir potentiellement pour leurs revendications faire que bon bah ils vont perdre un petit quelque chose quoi et tout et mais donc il laisse des gens aller au charbon à leur place et puis après ils récupèrent leur discours et ils vendent toujours encore plus de répression quoi
ouais. Et ouais juste Aurélie elle dit qu'il y a encore eu un suicide côté homme à Vivonne et donc bah on parle beaucoup de suicides hein, en vrai il y a deux semaines on avait aussi parlé du procès du maton suite au suicide de Karima et juste pour le rappeler quand même, quand Aurélie elle commence à écrire à l'envolée il y a un an, c'est après une vague de suicides de ouf à Vivonne où il y a je crois 4 personnes qui suicident dans l'espace d'un mois et demi quoi.
Et ça je pense en plus ces conditions de détention doivent vraiment pas du tout voilà ça rend voilà et ça participe à exacerber les tensions et tout et ils le savent bien, enfin en fait, voilà quoi. C'est pas. Enfin, voilà. Ça fait partie de l'économie générale de la tôle, du fonctionnement et tout. Et après derrière, savoir comment on va gérer ces établissements à ce niveau-là et comment qui on va mettre ensemble ou pas pour pas qu'ils soient trop potes parce que sinon ça risque de se retourner contre nous, mais qu'ils soient en même temps pas trop à se haïr parce que ça risque d'être compliqué. Voilà, mais en tout cas, l'administration pénitentiaire elle en joue de tout ça et ça fait vraiment partie des équilibres qu'elle casse assez régulièrement avec comme objectif de diviser pour mieux régner, quoi, tout le temps, quoi.
Ouais, ça fait très longtemps qu'il y a juste beaucoup de suicides, enfin, de façon générale, c'est pas circonstanciel à Vivonne, à la surpopulation et tout, enfin, juste c'est un fait qui existe depuis tout le temps, et enfin, juste là, dans la lettre précédente, on voit bien comment bah en fait, les gens sont poussés dans cette direction-là aussi, quand à ce point-là, il n'y a pas d'aide, à ce point-là, on met des bâtons dans les roues à ce que les gens aillent mieux. Donc voilà.
Bah, c'est la tôle qui fabrique ses suicides, quoi. Mais c'est quand même important de le rappeler, parce que le discours qu'il va avoir à chaque fois publiquement, bah souvent en fait, quand il y a des suicides en détention, c'est quand même souvent les matons qui... Enfin, on a quand même souvent juste la parole des matons, et ça tombe comme un espèce de truc fatidique de bah, les gens vont mal, ils suicident en tôle, et genre, nous on sait pas quoi faire. Au contraire, même pour nous les matons, c'est quand même un peu dur d'aller décrocher les gens, et en fait c'est aussi des dommages psychologiques pour eux, quoi. Alors qu'en fait, l'histoire qu'on a racontée il y a deux semaines de Karima, elle montre vraiment très précisément comment c'est la tôle qui fabrique ses suicides, quoi.
Oui, puis comment les matons vont aussi pousser au suicide, hein. Enfin, clairement, et franchement, quand on lit Aurélie, on la lit quand même souvent à l'antenne. Enfin, juste aussi tout ce qu'elle raconte de la tristesse qu'elle tue, de la souffrance qu'elle vit, en fait, et que c'est les matons qui créent ça, quoi. Et moi, je voulais juste, en vrai, t'envoyer plein de force, Aurélie, et genre te dire que, bah, de toute façon, faut pas... Bah, voilà, c'est dur à dire, mais tiens le coup, et tu, ça va aller, quoi.
Puis c'est l'occasion de rappeler un truc que rappelle Sylvia régulièrement, c'est que de toute façon une fois que tu commences à être enfermé et tout ça, en fait t'as beau être la personne la plus forte de ta tête qui soit, un jour ou un autre, en fait tu vas te poser cette question là un jour, voilà, et ça tout le monde en fait, voilà, il y a deux choses, enfin deux, trois choses auxquelles tu penses toujours quand t'es à l'intérieur, enfin auxquelles à un moment tu vas y penser, voilà, c'est comment tu vas, qu'est-ce que tu vas faire à ton juge, comment tu vas faire pour t'évader, et puis tu vas pouvoir aussi avoir à un moment des pensées suicidaires, quoi. Ça veut pas dire passage à l'acte, mais si tu vas y penser de vas-y, voilà. Et ça, en fait, bon, bah, c'est un truc assez partagé et tout. Et ce que rappelle aussi régulièrement Sylvia, c'est que, en tout cas, eux, ils préfèrent que tu ne parles plus et que tu ne dises plus rien. Enfin, tu vois, plutôt que prendre la parole à l'extérieur et ce genre de choses. Et tout, quoi. Et donc, en fait, c'est aussi aller dans leur jeu. Enfin, il y a pas de, c'est pas du tout dit, hein, dans une question de porter un jugement et tout ça là-dessus, mais en fait, eux, en tout cas, les suicides, ça les emmerde pas tant que ça, quoi. Voilà, ils ont beau tenir tout un discours là-dessus, dire qu'ils ont deux trois chiffres et tout ça, en fait, au fond, c'est pas trop leur problème. Et en tout cas, l'histoire de Karima et de ce directeur d'établissement, ça le montrait très bien, parce qu'il en avait strictement rien à foutre, et au contraire, ce qu'il voulait, c'était la faire souffrir le plus possible au mitard, jusqu'à ça. Sur ce, on va passer un petit coup de musique et on va parler des censures. À tout de suite.
Bien sûr que j'ai fait du théâtre, c'était au tribunal, avec mon seul bulle sans capuche, que ça la fout pas trop mal, devant des hommes enrobés, t'es galbé comme un gobelet, le parquet qui se dérobe dit vrai que tu l'as pas volé, bref, trois coups de brigadier font d'air, les chuchotements d'un parterre en prise avec les saisons, quand on compte sur nos poings, les 30 et les 31, que les piges d'incompréhension nous privent de l'amour lycéen, d'une croix j'émerge, d'une croix j'émarche, j'ai mangé mes gens les plus chers, rives et ombrages à une berge de barge, des bourges en marche, m'entoure bien mieux que ces bougres en masse, bouc bougon, bug buglant, big big luck, chaque jour j'embrasse, je te raconterai la dure lutte des classes, les dealers du bâtiment D, les acheteurs du bâtiment A, la MJC, le conservatoire, réunis sur les planches, à jardin, toutes les blanches et à court, tous les noirs, dans les gradins, un tas d'ingrats, qu'applaudit qu'à la fin, ses futurs agents de sécurité, ses agents d'entretien, je te raconterai, tiens maintenant que ça me revient, l'injurieux jury d'un tremplin, j'invente au riz, j'invente rien, Dieu mes témoins, d'après eux mes témoins d'apocop, et un peu plus de pop-pop-pop dans l'air fin, ayez l'air fin, ayez l'air pop-rock propre, ayez l'air propos positif, ayez l'air sobre, élégant, sobritiche. Il y a 20 ans, on pouvait pas dire il y a 20 ans,
Maintenant, on peut dire il y a 20 ans. 20 ans, en Normandie, on demeure un groupe émergent.
Je te raconterai mes années d'arpentissage, les gros bonnets qui s'écharpent et moi muet comme une harpe, comme un art populaire. Je te raconterai premier concert, premier spectacle, un boys band sur le parking de chez Leclerc. Les demandes qu'on faisait au maire, car ils nous respectent pas. On est foutés skate pas, ils nous foutaient skate park. Je te raconterai tout ce qu'on débat d'un bas d'inter au bar d'inter, d'un art ensemble of Chicago en claquette show, cet art and go. Je te raconterai le saxophone, l'éternité avant qu'on me la décime, la Lisa des Simpsons. Alto, alto, faut que je te présente ma lauréate, ma tante Béate qui me demande si j'ai déjà écouté les Béatles. Qu'est-ce qu'on s'éclate hors des médiathèques, alléluia. Moi mon papa n'a pas de page Wikipédia. Je te raconterai les stages corps et âme, corvéable. On n'est pas beaucoup d'artistes à savoir rouler des câbles. Qu'est-ce qu'il y a? Je recherche du sable, qui est skiable. Galbabar, sas-tu d'abattre des statues d'albâtre? Je te raconterai ma première visite au musée, quand elle aura eu lieu, comme on a puéreux et refusé des dates d'atelier. La clé est dans le casier, à digérer. S'agit de G d'idées du CJD. Qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, c'est ça le théâtre, c'était au tribunal. Et mine de rien, bah tu remplis une salle.
Vous êtes de retour sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, c'est l'émission L'Envolée comme tous les vendredis soirs de 19h à 20h30 ou sur plein d'autres radios locales un peu partout en France. Pour nous appeler tout au long de la semaine, c'est au 07 53 10 31 95 ou si vous voulez nous appeler en direct, c'est le 01 40 05 06 10. Vous pouvez aussi nous écrire pour vous abonner au journal 1 rue de la Solidarité 75 019 Paris et il faut mettre FPP-l'envolée. Vous pouvez aussi nous contacter par mail contact@l'envolée.net et sur les réseaux sociaux Insta, Twitter et Facebook. Ouais, donc on voulait faire un petit point sur la censure. La censure, ça fait un petit moment qu'on vous en a pu parler, même si on a passé vraiment beaucoup de temps à en parler ces derniers temps. On a subi une vague de censure assez forte de la part de l'administration pénitentiaire qui nous a censuré le numéro 52, le 55 et le 56 coup sur coup en interdisant à l'intérieur de la détention les numéros. Ça a entraîné un certain nombre de répression sur nos abonnés, principalement sur le fait qu'ils allaient régulièrement rechercher le numéro en cellule, puisqu'en fait le numéro était envoyé, l'AP faisait des notes là qu'on va lire par la suite, mais sauf que les notes, elles mettaient plusieurs semaines, voire mois, avant de sortir. Et donc, vu que toutes les correspondances sont notées par le vague-mestre pour chacun des prisonniers, après, ils allaient rechoper ces listings-là et ils allaient, à l'intérieur de la détention, récupérer les lettres aux gens et tout. Voilà, et souvent, il y a pu avoir des fouilles de cellules quand même assez sales et tout. Surtout que, comme on le dit assez régulièrement, l'envolée, c'est fait pour que ça circule, donc il était assez souvent, les gens n'avaient plus l'envolée dans leurs cellules et tout. Et donc voilà, donc ça a été le temps où on a eu une grosse censure, il y a eu ces interdictions de numéros en détention et tout, on y reviendra un peu plus tard aussi, mais c'est aussi à ce moment-là où dans la presse, ils annoncent qu'après avoir fait ces notes d'interdiction, ils ont porté plainte contre notre directrice de publication pour diffamation et insulte envers une administration publique. Sauf qu'en fait, dans les faits, ils ne l'ont jamais fait. Ils ont peut-être porté plainte, mais en tout cas, ils ont retiré leur plainte, ça c'est sûr, parce que de fait, notre directrice de publication n'a jamais été contactée par la police, alors que pour ces délits de presse, en fait, bon, déjà, il y a des délais de prescription qui sont extrêmement courts. Et surtout, en fait, la mise en examen est quasi automatique. Enfin, voilà, il suffit qu'on porte plainte contre vous pour diffamation, vous êtes mis en examen et ça sera jugé par un tribunal. Bon, ça fait partie du truc assez normal et tout. Mais donc, notre directrice de publication n'a jamais été mise en examen. Et donc, dans les faits, à un moment ou un autre, en fait, ils n'ont pas réellement porté plainte ou ils ont retiré leur plainte. Enfin, on ne peut pas savoir. Ça, c'est un bail qu'ils ont joué eux-mêmes avec la justice et tout. Enfin, avec eux-mêmes, en fait, qu'on se le dise. Mais voilà, mais tout ça. Mais en vrai, c'est plutôt stratégique de leur part, le fait de ne pas avoir fait cette plainte en diffamation, parce que diffamation il n'y a pas. Voilà, on va y revenir. Et ils auraient bien eu l'air con au tribunal de venir nous expliquer qu'ils n'ont pas tué Sambali et tout, alors que des gens leurs zouaves aussi, hein, parce que les zouaves de Paris, on sait qui c'est gros fachos, donc ça marche aussi. Et ben bah, eux, ils ont par contre été condamnés et tout ça. Donc, ce qu'on voulait faire ici dans un premier temps, ça va être de reprendre un peu les notes d'interdiction et tout ça pour revenir sur qu'est-ce qui nous est soi-disant reproché par l'administration pénitentiaire. Essayer de mettre ça un peu dans une critique structurelle qui est faite de la violence pénitentiaire et de la violence de ses agents. Et de voir qu'en fait, à chaque fois, c'est la même chose qui nous est reprochée. C'est quand il y a des prisonniers qui racontent que en fait, les matons sont violents. Voilà. Et essayer un peu de comprendre ce truc et puis de montrer qu'en fait bah il y a zéro diffamation et puis bah de parler un peu de comment ça s'est passé après, parce que là ils ont pas porté plainte, mais surtout, et on en partira un peu plus longtemps, mais ils ont surtout jamais répondu au fait que nous on ait fait un recours pour décision excessive, là je sais plus c'est quoi le terme pour excès de pouvoir, pardon. Et donc ils ont jamais répondu à ça, mais parce que dans les faits ils ont absolument rien à répondre, mais on va voir que ça implique des trucs assez drôles. Voilà. Donc le premier,
oui, pour rappeler, du coup c'est le, on passe pour excès de pouvoir devant le TA, donc le 11 octobre, c'est pour peut-être rappeler la date qu'on a rappelé tout à l'heure. Et voilà.
Ouais, tout à fait. C'est vendredi prochain, donc c'est dans une semaine tout pile que voilà. Et c'est la première fois que nous on porte plainte, voilà, en tant qu'envolé et tout ça. D'habitude, on n'a pas trop. Enfin, en tout cas, on a très rarement l'habitude de ce côté-là du box. Voilà, mais de toute façon,
c'est contre l'administration pénitentiaire.
Voilà,
c'est un recours administratif.
Oui, voilà. Bah, une plainte.
C'est un recours administratif, et puis et il y a des prisonniers aussi qui ont fait ce recours-là. Voilà, je pense à l'infâme et tout. Et ça ne pourra pas impliquer de mettre des gens en prison, quoi. Voilà, c'est pour défendre des droits et tout, quoi. Néanmoins, on n'est pas du tout naïf. On en parlera après sur ce qui va se passer et tout, parce que c'est eux qui gèrent le tout. Mais donc, la note du numéro 52 qui a été censurée, je vous en lis un petit bout. Considérant que le numéro 52 de la revue L'Envolée, publié au mois d'octobre 2020, comporte un corpus d'articles regroupés sous l'intitulé « Peine de mort en prison » aux pages 48 à 56, que ces écrits allèguent de faits de violences volontaires commis par des personnels de l'administration pénitentiaire dans l'exercice de leurs fonctions contre des personnes détenues ayant pu entraîner leur mort. Qu'en outre, ces écrits imputent aux responsables hiérarchiques des auteurs de ces violences alléguées de ne pas les avoir dénoncées. Considérant que le numéro 52 de L'Envolée du mois d'octobre 2020 contient ainsi des propos revêtant un caractère diffamatoire à l'égard des agents du service public pénitentiaire, considérant d'autre part que les propos tenus dans ce même numéro, eu égard à leur teneur et à leur gravité, sont de nature à inciter les personnes détenues incarcérées au sein des établissements pénitentiaires à la violence contre des personnels de direction et de surveillance, désignés comme auteurs ou complicité d'assassinat de personnes détenues, ces comportements étant au surplus présentés comme des indissociables de la mission de service public pénitentiaire. Considérant que la revue L'Envolée est distribuée gratuitement aux personnes détenues qui y sont abonnées, permettant par là une large diffusion auprès des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires. Et donc considérant enfin que le numéro 52 de L'Envolée contient des menaces graves contre la sécurité des personnels et des établissements. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 52 et pour le numéro 52 en 52.
On a refait une petite histoire là. Qu'est-ce qui s'est passé en 52 en France?
Alors, papy, Serge va vous raconter. Non. Pour le numéro 52, c'est on vient de sortir du premier confinement du Covid. Voilà, et on vient de passer presque 3 mois à faire une quotidienne. Voilà, sur la prison et tout. C'est aussi un moment qui a été pas évident pour l'équipe, parce que Olive, qui était l'un des fondateurs de L'Envolée, est décédé au début du premier confinement et tout ça. Et donc on rendait hommage à Olive dans ce numéro, bien évidemment, et on relayait un peu toutes les luttes qu'il y avait eues pendant cette période. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des matons qui sont pas n'importe lesquels, parce que c'est des matons de la CGT pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe qui vont, font quand le numéro est envoyé en détention, récupèrent le numéro et tout ça. Alors là, à ce moment-là, ça devient notre imaginaire, mais on est quasiment sûr que c'est ça qui s'est passé, c'est que ces gens-là ont vu la gueule d'Olive sur le numéro. Olive qui avait fait rentrer 2 ans ou 3 ans auparavant des palettes pour les colis de Noël, voilà, dans un acte de solidarité trop chouette, avec Christophe et tout notamment. Et ça, les matons, ils n'ont jamais supporté ce bail-là. Et donc, à ce moment-là, ils vont écrire un communiqué de presse, la CGT pénitentiaire d'Alençon, pour demander la dissolution, pas la dissolution, l'interdiction du numéro L'Envolée dans la détention. Et Pascal Ridel, le directeur de la DAP, mettra quelques semaines à pondre le truc qui vient d'être pondu, qui ne dit absolument rien, où il n'y a pas de phrases qui sont citées. Enfin voilà, juste ils disent ils sont méchants. Voilà. Pour des raisons administratives et bureaucratiques, on n'a pas pu faire de recours à l'époque contre cette décision. Voilà, et donc ça fait que le numéro a été interdit, même s'il a quand même circulé pas mal en détention, voilà, et qu'il a pu être envoyé parfois, voilà, et en fait, dans la pratique, les vaguemestres, surtout autant de temps après, ont un peu oublié que ce truc il est interdit en détention, et donc ils vont pas le récupérer à chaque fois. Voilà, mais c'est déjà, on voit déjà apparaître, en tout cas dans la note, c'est très très clair. Qu'est-ce que l'administration pénitentiaire ne supporte pas et ne tolère pas qu'on dise ? Le fait que la violence de ses agents soit consubstantielle, comme ils disent dans leur vocabulaire, mais qui dit simplement que l'administration pénitentiaire forme ses agents et leur apprend à être violent et tout ça, et que la prison tient pour partie à la violence de ses agents, ça l'aurait pour eux insupportable. Et en tout cas, c'est surtout ça qui doit ne jamais être diffusé, et surtout encore moins circuler à l'intérieur de la détention. Donc ça, c'était pour le numéro 52. On va refaire 2 numéros entre temps, dont un petit numéro, si mes souvenirs sont bons, arrive le procès des matons qui ont tué Sambali, qu'on va suivre une grande partie de l'équipe à La Rochelle et avec Oumu, pour des matons qui ont tué Sambali. Et donc, pour à cette période-là, on va faire des podcasts qu'on va enregistrer tous les soirs après les émissions. Et après, on va faire un journal qui va être directement censuré par ces beaux mots de l'administration pénitentiaire.
Donc, les beaux mots de l'administration pénitentiaire sur le numéro 55. Donc, l'administration pénitentiaire écrit « Considérant que le numéro 55 de la revue L'Envolée, publié au mois de mai 2022, comporte un article intitulé « Distribution de permis de tuer au tribunal de La Rochelle », aux pages 24 à 29. Considérant que cet article contient des propos alléguant que l'administration pénitentiaire enseigne à ses personnels des gestes professionnels portant atteinte à la dignité de la personne humaine, qualifié par l'auteur de l'article de « arsenal habituel » et de « horreur tellement banale et généralisée », tels que, donc, entre guillemets, étranglement, plaquage, pose de bâillon, que cet article impute le décès d'une personne détenue survenue en détention à des gestes professionnels qui ont été enseignés à l'école de la maçonnerie de Fleury. Que de tels propos portent une atteinte grave à la crédibilité et à l'honneur de l'administration pénitentiaire et de ses personnels, en ce qu'ils imputent à la formation enseignée au personnel pénitentiaire des contenus contraires à la dignité de la personne humaine. L'établissement pénitentiaire de Fleury-Mérogis étant connu pour avoir été historiquement l'un des sièges de la formation des personnels pénitentiaires et pour être un établissement de première affectation de très nombreux agents de surveillance. Considérant que le numéro 55 de l'envolée du mois de mai 2022 contient ainsi des propos revêtant un caractère diffamatoire à l'égard de l'administration pénitentiaire, garante du service public pénitentiaire, ainsi qu'à l'encontre des agents dont elle assure la formation. Et ensuite, blablabla, la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est très largement diffusé et en plus de manière gratuite, donc quand même, c'est pas très... Enfin voilà, on est très très lu dans les prisons, selon l'administration pénitentiaire. Je vais pas vous relire ça.
Mais ouais, bah c'est toujours le même truc. Mais ça, en fait, ce bail-là à la fin, c'est juste un truc pour justifier. C'est ce qu'on disait tout à l'heure là, sur les mesures de bon ordre. C'est vraiment un truc qui permet en fait de déplacer tous les droits que vous allez pouvoir avoir en détention vont être conditionnés à cette question du bon ordre et tout ça. Donc dès que tu vas avoir des droits qui vont s'ouvrir à l'intérieur de la détention, il y a toujours une petite astérix à côté qui dit sous condition du bon ordre dans la détention. Et ce qui est complètement incroyable, c'est qu'il y a des... complètement incroyable, c'est absolument pas incroyable, hein, c'est juste que voilà. Mais même des droits qui sont les plus fondamentaux, comme étant la liberté de la presse et autres, en fait, ont cette petite astérix, parce que pour eux, c'est tout le temps, voilà, et il n'y a rien qui doit être en dessous de ça.
Et que c'est un truc qu'ils utilisent comme ils veulent, et pas seulement pour censurer l'envolée, quoi, parce qu'on en avait beaucoup parlé à l'antenne, mais globalement, quand ils censurent des lettres de prisonniers pour des prétextes tous aussi hallucinants les uns que les autres, c'est toujours par rapport à ce truc de bon ordre, sauf quand leur prétexte du jour, c'est « Ah, ça fait un peu suspicion d'évasion, on sait pas trop quoi ». On avait pas mal parlé des censures des lettres de Kémy, où il y avait une lettre qui avait été censurée parce qu'il y avait un dessin d'hélico, donc apparemment c'était un peu un truc d'évasion comme ça, et une lettre qui avait été censurée parce qu'il y avait une rature, donc c'était des messages secrets. Globalement, cette notion de bon ordre, ils en font complètement ce qu'ils veulent quand ils ont envie de faire quelque chose, quoi.
Bah, c'est toujours ce truc de, en fait, ils sont jugés partis dans cette histoire. C'est qu'ils disent qu'ils sont diffamés, ils décident de ne pas aller au devant le tribunal et après, derrière, ils interdisent, parce que là, c'est la partie sur laquelle ils peuvent être juges. Peut-être pour rappeler cette histoire de Sambali Diabaté, c'est comment ces gens-là ont tué Sambali Diabaté. Sambali, voilà, enfin, ça va se passer à un moment où en fait, ils vont pas vouloir passer un portique et tout ça. Très rapidement, ils vont lui tomber assis dessus et ils vont lui mettre un bâillon dans la bouche. Et quand je dis un bâillon sur la bouche, c'est un bâillon dans la bouche, c'est pas un bâillon sur la bouche et le nez, c'est vraiment l'un des matons parlera à la barre de mort, comme un mort pour un cheval, quoi. Voilà. Ils vont maintenir ce bâillon-là pendant plus de 30 minutes, à tel point que la personne qui tenait le bâillon, donc en fait, il va faire un 8. Dans la bouche, il va faire un 8 et il va récupérer des trucs là avec les mains croisées pour le maintenir fort. On le verra à la barre faire les mouvements, quoi. Et tout, et il va être à tel point, il va tenir tellement fort ce bâillon, il va être tellement tétanisé qu'il va demander à avoir du scotch pour pouvoir rattacher le truc. Et donc ça, voilà, ça se passe à côté de d'un portique, et donc il décide de le transférer directement au mitard, et donc ils vont le transférer comme ça, bâillonné, assis sur lui, chacun qui tient des membres et tout. Ils vont le faire descendre des escaliers en le tenant comme ça, donc torse contre terre, ils portent chacun des membres et tout, donc je sais pas si on voit à peu près ce que ça représente, quoi, enfin voilà. Et donc bah, on imagine bien la tête la première dans les escaliers voilà, et ils vont être l'écraser, en fait. Ils vont se mettre à deux voire trois sur lui, en attendant qu'arrive une bagnole qui va pouvoir amener son bali au mitard, parce que Saint-Martin-de-Ré, c'est une tôle qui est un peu chelou, où il y a le mitard, il est dans un des bâtiments qui est situé à quelques minutes en voiture de la prison. Là, à ce moment-là, ils vont le glisser entre deux sièges d'un fourgon. Ils vont encore être à trois sur lui. Voilà, c'est le moment où Sambali va avoir des râles post-mortem. Voilà, donc bon, c'est ce qu'on a appris au procès, c'est que l'obstruction. Enfin, voilà, quand tu décèdes, l'air se vide de tes poumons et ça fait des râles post-mortels. Voilà. Et donc là, quand ils le foutent entre ces deux chaises, là, ils sont à trois, enfin, ces deux rangées de voitures, ils sont à trois contre lui, assis sur lui, posés au-dessus. Alors, ils ont chacun soit un genou, soit un truc. Enfin, bon, c'est vraiment affreux. Et donc, au bout de quelques minutes de voiture, ils le sortent et tout ça. À ce moment-là, il se rend compte qu'il s'est déféqué dessus. Voilà, donc ce qui est pareil, un signe assez fort de... Enfin, c'est pareil, ça sera rappelé aux experts ça fait aussi partie des symptômes d'un décès. Je sais pas si c'est la bonne manière de le formuler comme ça. Voilà, ils vont lui faire une fouille à nu avant de le foutre au mitard. Donc ils vont le foutre à poil et ils vont le mettre sous le lit du mitard en se disant quand il va se réveiller. Enfin, c'est la pratique qui avait en cours et qui doit encore avoir en cours à Saint-Martin-de-Ré, où donc il était mort, hein, à ce moment-là, donc il pense qu'il est dans le coma à ce moment-là, enfin ils disent qu'ils pensent qu'à ce moment-là il est dans le coma, mais donc ils le mettent dans le coma, donc ils le fouillent à nu, il est inerte, quoi, voilà, et ils vont le mettre inerte sous le lit, en disant généralement quand ils sont inertes comme ça et quand ils se réveillent, en fait ils se retapent directement la tête, et comme ça les rassomme un bon coup, et comme ça ils nous font pas trop chier, quoi. Voilà, donc c'est comme ça qu'ils expliqueront le fait d'avoir fait ça, et ils le laissent pantalon baissé. Voilà. Et ce n'est que deux heures, je ne me souviens plus précisément, enfin voilà, où il y a quelqu'un qui dit quand même c'était un peu chaud là, et qui vont voir, et que là ils vont constater le décès.
C'est d'autres matons qui le retrouvent, ouais. En fait, les gars qui l'ont mis sous le truc en se disant comme ça il va se réassommer un bon coup en se réveillant, c'est pas du tout eux qui ensuite... se disent que peut-être il y a un problème, quoi.
Donc, ouais, c'est ça. Et voilà, il va y avoir une réunion de convoquer directement par le directeur adjoint et tout, où clairement, ils disent qu'il va y avoir enfin, ça va se juger au tribunal, là, puisque ce qui s'est passé, c'est quand même vraiment chaud et tout ça. Ça semble très, très fortement certain que c'est quand même un moment où, en fait, ils s'accordent sur une version qu'ils ne vont pas lâcher. Voilà. Pendant tout le temps. Tous ces faits-là, en fait, ont été établis pendant le procès complètement admis par l'intégralité des agents.
Et c'est ça qui est important à comprendre dans cette histoire de censure du numéro 55, c'est que la note, ce que reproche la note là, au journal qu'on vient de lire, en fait, c'est que des trucs qui viennent du procès et qui ont été dits par des juges, par des procs, par des avocats, un moment du procès pénal où ces matons ont été condamnés pour, je crois, violence involontaire, ayant apporté la mort. C'est pas un truc qu'ils ont essayé de le buter, ça reste quand même de la correctionnelle avec des violences involontaires, quoi. Mais que du coup, on ferait de la diffamation à partir de trucs qui ont été reconnus dans l'arène judiciaire.
Oui, surtout, ils ont dit, non, qu'ils avaient appris ça à Fleury et tout. Les matons, ils ont dit ça, non?
Ouais, ils ont dit qu'il y avait certaines techniques qu'ils avaient appris à Fleury, celle du fourgon et tout ça, en fait, qui était en pratique et qu'ils l'avaient tous fait régulièrement à Fleury. Et après, derrière, en fait, même à Rennes, en fait, il y a la technique dite de Fleury, enfin ça c'est dans un rapport du contrôleur général. Là encore dernièrement pour le rapport de la prison de c'est pas Nîmes pour le du CGLPL dont on parlait il y a 2-3 semaines.
C'est à Tarbes,
merci. C'était la même chose en fait. Enfin voilà, où c'était des techniques qui se passaient d'agent en agent et autres quoi. Donc, on va peut-être pas relire l'intégralité de ce qu'on a mis où on a rappelé en fait ce qui a été dit à la barre et tout, mais enfin vraiment tous ces surveillants ont pleinement assumé la violence qu'ils ont faite et ça a même été un rôle de la procureure en fait de dire bah ouais en fait c'est l'inhumanité de la prison qui a tué pour avec ce truc absolument affreux pendant ce procès qui est de dire ouais c'est l'inhumanité de la prison qui a tué Sambali mais donc ça déresponsabilise légalement les surveillants qui ont été violents parce que c'est vraiment cette inhumanité institutionnelle quoi.
En fait, ils ont fait comme d'habitude, et c'est pour ça que Sambali est mort. C'est ça ouais. Que ça dit, en fait.
Ouais, et puis ça a été assumé, quoi. Vraiment et tout, avec, comme tu le disais, cette, entre guillemets, astuce juridique qui va être de dire de poser un baillon et autres, en fait, ce n'est pas une violence. Donc juridiquement, hein, c'est ça qui a été... jugé et validé par les juges, je sais pas quoi en fait, en tout cas un acte ayant entraîné la mort sans intention de la donner, enfin comme si c'était un accident de voiture quoi.
Même si c'était un peu emmerdé par le baillon parce qu'en fait c'était ouais. Quand même vraiment interdit quoi. Genre ils ont fait comme d'habitude, mais ça faisait quoi 10-15 ans que
c'est ça, ça fait
10 ans voilà que c'était interdit.
Ça fait plus 10 ans que le baillon il est complètement interdit. Ce qui est aussi un peu complètement ouf, mais on voit en fait c'est là où il y a aussi de la redondance et tout ça, et puis le fait que l'envolée une vingtaine d'années en fait ça permet de voilà, parmi les choses qui ont été, parce qu'on a déjà subi des censures avant, parmi les choses qui nous avaient été reprochées, ça avait été le récit que des prisonniers donnaient d'un de leur transfert où ils avaient été baïonnés. Et on leur reprochait d'avoir rappelé qu'ils avaient été baïonnés, et à l'époque c'était autorisé de baïonner et tout quoi. Mais donc. Voilà, et c'est vraiment ça qui est incroyable dans ce qui nous est reproché à ce moment-là, c'est qu'en fait, on ne fait que raconter le récit véridique, j'ai envie de dire, c'est un peu chelou de le dire de cette manière-là, mais de ce procès, voilà, qu'on sera quand même assez peu à les suivre. Enfin voilà, il y aura quand même assez peu de presse là-dessus. Il y aura un petit article dans Le Monde, c'est tout. Il y aura eu un dossier avant dans Libé auparavant, mais bon, globalement, ça n'aura pas fait du tout. Voilà, alors que les faits qui nous ont été décrits et qu'on a entendus pendant 3 jours étaient quand même absolument affreux. Et donc, on nous interdit de le raconter aux prisonniers et aux prisonnières, et on interdit aux prisonniers et aux prisonnières d'avoir accès à cette information d'intérêt général, hein, là, si on a envie de parler comme Mediapart. Mais donc voilà. Et donc, à aucun moment, on se dit « Ah non, le problème, c'est le baillon et tout ça ». Non, le problème, c'est de raconter. Ce qui s'est passé. Donc ça, c'est ce numéro 55, et il y a le numéro 56 après derrière qui va aussi être interdit.
Ouais, parce que du coup, les deux censures de 52-55, c'était beaucoup autour de ces histoires de raconter la violence structurelle de la tôle, et beaucoup autour de cette histoire de Sambali, que au-delà de cette histoire de tribunal administratif qu'on raconte, c'est important de toujours raconter cette histoire, parce qu'en fait c'est une histoire où il y a eu un procès des matons, et qu'en fait c'est quand même assez rare qu'il y ait des procès après la mort de prisonniers dans les mains des matons, sans revenir même sur toutes les morts suspectes, où en fait c'est officiellement des suicides, c'est des non-lieux, il n'y a jamais de procès quoi. Du coup, ça a vraiment commencé autour de ça. Mais le 56, alors il y a encore des histoires de violences structurelles, mais globalement, il y a un peu plus un truc de « on va prendre des phrases au hasard qui nous ont saoulés dans le journal pour justifier la censure du numéro ». Du coup, je fais une petite lecture de la prose de l'AP. Plusieurs articles du numéro 56 de la revue L'Envolée, publiés au mois de novembre 2022, font état de faits de violences volontaires commis par des personnels de l'administration pénitentiaire dans l'exercice de leurs fonctions, à l'encontre des personnes détenues dans les termes suivants. Caractère systématique de la violence exercée par des surveillants, torture psychologique, psychique, voire même physique lors des fouilles à nu qui sont pourtant interdites et abusives, ou encore, la prison, elle tue. Soit ils les tuent de leurs propres mains, soit ils leur font de la pression. Ils les tuent à petit feu jusqu'à les conduire à la mort, parce que voilà, c'est de l'acharnement. Certains articles contiennent également des propos portant une atteinte grave à la crédibilité et à l'honneur de l'administration pénitentiaire, de ses personnels et de la formation enseignée. Citation « T'as pas vu les matons, ils font les fachos toute l'année. » Les matons continuent à transmettre des techniques qui tuent. Ou encore, l'ex-avocat super Dupont-Moretti n'assure plus la défense de grand-chose, si ce n'est celle des positions fascistes. Au-delà de cette drague éhontée, il est important de rappeler que les animations telles que Colantes et les polémiques qu'elles suscitent masquent avant tout la violence pénitentiaire et la nature mortifère de la prison. Donc voilà en gros ce qu'ils avaient avancé pour la censure du numéro 56.
Alors là, il y a un bail où nous, on s'est quand même beaucoup marré. Parce que donc, ce qu'ils nous reprochent, c'est de dire qu'on parle du caractère systématique de la violence exercée par les surveillants. Et en fait, nous, on n'a jamais écrit ça. On n'a pas du tout écrit ça. On a écrit, on parle du caractère systémique de la violence exercée par des surveillants. Et donc, ce qu'on explique assez régulièrement, c'est qu'en fait, la violence des martons, elle fait partie de ce système violent qu'est la tôle et qu'est l'enfermement. Et tout. Donc, ça c'est vraiment, c'est vraiment bien la preuve. Et en fait, ça dit encore ce truc-là sur qu'est-ce qui est quelque chose qui est, quelle est une forme de critique qui est intolérable à leurs yeux et autres, quoi. Après, derrière, ça sert à rien qu'on revienne encore une fois, parce qu'en fait, c'est encore toujours la même chose. C'est le fait de dire que, en fait, l'administration pénitentiaire en tant qu'institution, déjà est une institution violente, et après derrière en plus une institution qui fabrique cette violence, notamment en formant ces matons à des techniques qui tuent et tout ça. Et ça pour eux c'est intolérable qu'on puisse le dire. Et l'autre truc qui est complètement hallucinant et peut-être pour lequel c'est le plus énervant à ce moment-là, c'est quand même que la phrase « la prison, elle tue », soit ils tuent de leurs propres mains, soit ils leur font la pression, ils les tuent à petit faux jusqu'à les conduire à la mort, parce que voilà, c'est de l'acharnement. Cette phrase, elle est dite, elle provient d'une interview d'Adeline, qui est la femme de Romain, qui venait de décéder en détention, dont le numéro, en fait, est beaucoup dédié... Enfin, le titre du numéro est en hommage à Romain, enfin en tout cas il a couvé et tout ça, et en disant il n'y a pas d'arrangement et tout. Et c'est Adeline qui dit cette phrase, qui s'est battue et tout ça. Et elle sait ce qu'il en est, parce qu'en fait, elle a perdu Romain, qui est décédé d'une rupture de l'aorte pendant l'été. Voilà. Et ce que lui ont bien dit les médecins à ce moment-là, c'est qu'en fait, c'était le stress de la prison. Donc quand elle dit en fait les matons ils foutent la pression, en fait il y a le stress de la prison, puis il y a les matons qui foutent la pression en fait, et qui tuent. Après au-delà de ça en fait, que la prison tue en fait, c'est factuel. Enfin je veux dire, on a des taux de suicide qui sont bien plus importants. Que certains matons tuent, c'est pareil. Ça a été le cas pour Sambali Diabaté, les gens ont été jugés et condamnés pour ça. Donc c'est toujours autour de ces questions-là, de la violence de l'administration pénitentiaire, de la violence qu'elle transmet à travers les formations, de la violence de l'institution elle-même, la prison qui provient de l'enfermement et de l'isolement qu'elle implique, et tout ça. Ça, c'est des critiques en fait qui sont pas acceptables par l'administration pénitentiaire.
En tout cas, envoyé aux prisonniers, ça l'est pas. Parce qu'à l'extérieur, ils s'en foutent un peu, ça les met pas trop en danger, mais c'est quand c'est envoyé à des prisonniers que manifestement, ça les énerve, quoi.
Clairement. Et c'est ça, c'est là où voilà. Mais parce qu'en fait, s'il voulait l'interdire à l'extérieur, il faudrait qu'il y ait un vrai procès pour diffamation. Et sauf qu'en fait, il le perdrait, parce que factuellement, ce qu'on dit est vrai, en fait. Oui, en fait, la prison est violente et tue des gens, en fait. Enfin, on peut pas mégoter là-dessus, en fait. C'est factuellement pas possible.
Et c'est peut-être pour ça qu'il nous répond pas.
Alors voilà, c'est ça le truc sur lequel on voulait aller, c'est qu'en fait, là, l'administration pénitentiaire a censuré en toute discrétion et sans avoir et donc dans ce truc de juger parti, en fait, ils ont pu nous censurer et on a fait notre cours et en fait ils ont jamais répondu à tout ce qu'on leur a dit en leur disant mais si, en fait, c'est vrai.
Déjà, il y a un premier truc, c'est qu'on fait deux recours suite à la censure du numéro 55 et du numéro 56 et les juges administratifs refusent l'urgence, quoi.
Ouais.
Mais c'est déjà un premier truc qui fait qu'en fait c'est pas urgent que des prisonniers puissent recevoir ce qu'ils veulent de la part de l'extérieur en termes d'informations et tout. Ça, déjà, les juges administratifs disent « Bon, bah, globalement, on s'en fout, on jugera ça plus tard. » Et c'est pour ça que l'audience, c'est vendredi prochain, avec du coup les deux censures qui sont réunies en une seule audience. C'est parce que c'est pas passé en urgence et que du coup, ça a mis deux ans, quoi, à avoir une audience sur ce point-là.
Et ça c'est déjà un premier truc qui était vraiment hallucinant. Enfin, c'est très, très rare de passer en référé et tout. C'est clair. Mais là, on a eu un rejet du référé extrêmement rapide et lapidaire, parce qu'on a juste dit non. Voilà. Et tout. Et donc, depuis, on attendait que l'administration pénitentiaire réponde, en fait, sur le fait que, bah, en fait, ce qu'on tenait comme position, en fait, c'était des choses factuelles. Quand on raconte le procès de Sambali, bah en fait c'est des choses qui ont été dites à la barre par ses agents voilà, et autres, ou bah quand c'est des faits que voilà, et ils ont jamais répondu malgré les mises en demeure du tribunal et tout ça. Donc là, jusqu'à mardi, donc il reste 5 jours, ils pourraient encore potentiellement envoyer un petit truc et tout, mais si mardi ils l'ont pas envoyé, ils se seront même pas défendus. Et globalement, ils vont même pas se pointer, parce qu'ils n'auront même pas le droit de parler au tribunal s'ils ont rien écrit. Voilà, parce que c'est un peu chelou, le tribunal administratif, c'est que de la procédure écrite, donc tu as le droit de venir faire un semblant de procès comme on a l'habitude de le voir, mais en fait, tu as le droit de que dire ce que tu as déjà écrit auparavant, en gros. Donc voilà. Donc là, si ils ont rien écrit jusqu'à mardi, en fait, on va se retrouver avec personne en face de nous, à part des juges et tout. Et c'est là où on va en arriver sur comment le droit est fait et tout. C'est-à-dire qu'en fait, la question du bon ordre en détention, en fait, elle l'emporte sur quasiment tout. Et donc cette question de la liberté de la presse et de décrire des faits et tout ça, en fait. On va demander à des juges administratifs de le juger, quoi, et tout. Et on n'est vraiment absolument pas du tout confiant sur le fait qu'on va pouvoir, on va l'emporter face à ça.
Ouais, du coup, on en avait parlé dans ce numéro censure qu'on avait, spécifique sur la censure qu'on avait fait, mais il y avait déjà eu un procès de l'envolée en 2007. Pour le coup, au pénal, pour des trucs de diffamation, qui les avait quand même bien fait chier, parce qu'en première instance, du coup, l'envolé avait cité des prisonniers à venir répéter à la barre ce qu'ils avaient écrit dans le journal, pour dire voilà, que c'était pas de la diffamation et tout, et donc ils ont dû extraire pour le tribunal un certain nombre de prisonniers qui sont venus passer à la barre et tout, donc ça les a quand même bien fait chier. Mais en tout cas, l'envolé a quand même été condamné, et parce que c'est quand même important par rapport à l'audience qu'il va avoir vendredi. Le juge qui a condamné du coup le journal a dit que c'était des faits exacts, mais que c'était la présentation qui était offensante. Donc on peut imaginer que vendredi, même si ce qu'on dit c'est quand même à peu près sûr que c'est vrai, ça leur plaise quand même pas trop au juge administratif, quoi.
Non, non, c'est clair. C'est, bon, bah, on va voir comment ça va se passer et tout. Mais en tout cas, ce que ça impliquerait, c'est le fait qu'ils puissent censurer. Et être jugé parti, voilà, parce qu'ils considèrent que c'est une diffamation envers eux et tout, de manière très facile, et en fait, sur lesquelles, en fait, il n'y a quasiment pas de voie de recours, quoi. Et ils n'ont même pas à s'en défendre. Voilà, et donc, bon, bah, c'est le moment topo facho, quoi. Mais en fait, voilà, il y a un côté quand même assez hallucinant où ils n'auront même pas eu à se défendre voilà, si on perd et tout ça, à aucun moment ils auront même eu besoin de défendre leur position et tout ça. Et là, c'est pour ça qu'on a fait exprès de prendre le temps de lire l'ensemble de ces notes. C'est parce qu'en fait, pour les gens qui, à l'intérieur, vous connaissez, surtout les gens qui ont des longues peines et tout ça, vous savez comment c'est argumenté par les juges et tout ça. Et voilà. Il y a besoin quand même d'un minima, à minima, d'un argument juridique qui tienne un peu la route. Là, on voit bien que ces notes, elles sont ni faites ni à faire sur du point de vue juridique. Quoi. Et tout. Ils savent très bien que de ce point de vue-là, en fait, ça ne tiendrait pas dans un vrai tribunal de la presse et autres. Par contre, face au tribunal administratif qui eux sont là pour principalement défendre l'administration, on va voir ce que ça va donner. Et donc, on s'attend pas à grand chose. Ce qui nous importait de faire, c'était de pas laisser passer sous silence ces censures, et de rappeler que pour nous, la voix des prisonniers, elle doit continuer à circuler, voilà. Et ça a été aussi la manière dont on a réagi à ça. On n'a pas réagi en arrêtant de faire des numéros, on a plutôt réagi en essayant d'en faire plus et de continuer à diffuser au maximum, quoi.
Ouais, et puis de toute façon, quelle que soit l'issue de l'audience de vendredi, le droit administratif, ils jouent en leur faveur. Imaginons même que l'administration perde là-dessus. En fait, ça ne les empêche pas du tout de recensurer des journaux et qu'après, il y ait de nouveau une audience 2 ou 3 ans plus tard. En fait, ça ne les empêche en rien. La temporalité même et le fonctionnement de la justice administrative fait que ça ne les met pas de ouf en danger, quoi.
C'est clair. Parce qu'en plus, ça ne va pas leur coûter grand-chose et tout, quoi.
Il ne faut pas hésiter à aller revoir un peu le numéro 57 qu'on avait fait là-dessus, parce que comme globalement la censure, c'est pas quelque chose de nouveau, là on est sur un type de censure un peu différent, parce que c'est des notes nationales qui ont interdit le journal dans toutes les tôles de France, mais il y a eu plein de types de censures différents. On a mentionné là le procès de 2007, et du coup on avait fait un numéro où on avait un peu remis les différents trucs qui avaient énervé l'administration pénitentiaire depuis le premier journal en 2001, donc ça vaut quand même le coup encore d'aller peut-être gratter là où ça les emmerde un peu, quoi.
Et puis ouais, juste pour dire aussi, c'est qu'en fait il y a ces censures nationales, mais il y a aussi très généralement plein de censures faites juste par le vague-mestre qui transmettent pas tout ça, et sur lesquelles en fait on a quand même beaucoup moins de visibilité et tout. Et donc l'Envolée a quand même toujours été un journal extrêmement censuré, que ça soit de manière officielle ou officieuse par les matons directement. On a été extrêmement long. On va passer un petit coup de musique et à tout de suite.
Faut que tu viennes pour le voir, je peux pas t'expliquer. Tu viens pour le voir, je peux pas t'expliquer. Pas un bonhomme pour faire la baston. Non. Un bonhomme pour faire la baston, sa prestige les ai démasqués. Pour prendre le violet faudra les brusquer. J'ai la Zubrovska, l'essentiel briqué. Bénéfice élevé mais c'est risqué. Faut que tu viennes pour le voir, je peux pas t'expliquer. Faut que tu viennes pour le voir, je peux pas t'expliquer. Je me méfie d'elle, elle aime le luxe et les locks. Elle kiffe le buzz et mon look. Elle veut que je sorte le 38 spécial et que je fasse le Lucky Luke. Et lui en face il fait des grands sourires pour mieux se refaire sur ma nuque. T'as capté le truc, frérot, me fais pas la bise. Plus cramé par le cannabis. Je viendrai te chercher chez la meuf que tu baises. Je viendrai te chercher chez la meuf que tu baises. Bah ouais c'est sale, hein. Sale comme le poteau qui t'a laissé solo. Sale comme une enfant sans câlin. Pur comme le premier colis. Graine de café dans le collier. Graine de café dans le collier. Tu veux être le taulier. Comporte-toi comme un taulier. Tous les voleurs me disent collier. Noir sont les pensées. Personne qui nous fera croquer. Donc je vais les servir jusqu'à qu'ils fassent une odeur. De l'autre côté. La piste du diable dans le gobelet. Plata ou plomo. Je n'ai que la haine à vous donner. Je n'ai que la haine à vous donner. Même les plus coriaces finissent par abandonner. Faire la moula sans mitonner. Faire la moula sans mitonner. À l'autre côté. De l'autre côté. De l'autre côté. De l'autre côté. Pas un bonhomme pour stopper la baston.
Christi, sommes-nous des bestiaux. Mon gars, va baisse-toi d'ici à Boston. Rien que ça tire, mais y'a personne quand le boss tombe. Ils disent même pas ce qu'ils pensent quand leur bouche parle. La zipette leur donne des tronches de zombies. Sahigo, ça fait un moment qu'on sait pas parler. De mon côté, ça bouge pas, mais toi, je te sens bizarre. Et sur les photos, tu souris sans les yeux. Plus d'émotions, tes démons s'endorment avec. Dimension parallèle du poison dans tes boissons. Du liquide violet comme le sang d'un Namek. On a dû rester authentique. Parle bien devant la mythe, donne du respect authentique. Tous les gars, va de m'abandon des fans. J'ai connu très tôt l'abandon des femmes et je me fie à elle. Bien avant mon buzz ou mon look, je lui envoie mes sons, rien ne leak. J'irai la chercher tout en bas de sa thèse. Elle me parlera de sa thèse, elle est dans les études. De l'autre côté c'est dur, obligé de recompter ses thunes. Elle aime pas les showcases, elle a peur, elle m'en parle et j'acquiesce. Naturel comme Alicia Keys, elle veut jamais que je paye. Mais je l'inviterai prendre un verre à cale dans la plus belle des suites. Crois-moi qu'on verra qu'elle, ça c'est pour toutes les fois où on s'est fait recal. Les petits bisons sait faire au calme.
De l'autre côté, noirs sont les pensées. Personne qui nous fera croquer, donc je vais les servir jusqu'à qu'ils fassent une ode. De l'autre côté, la piste du diable dans le gobelet. Plata au plomo, je n'ai que la haine à vous donner. Je n'ai que la haine à vous donner. Même les plus coriaces finissent par abandonner. Faire la moula sans m'y donner. Faire la moula sans m'y donner. De l'autre côté, de l'autre côté, de l'autre côté, de l'autre côté.
Vous êtes de retour sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, c'est l'émission L'Envolée, comme tous les vendredis soirs de 19h à 20h30. On voulait rapidement parler du procès de... des flics.
Parce ouais, que, voilà, exactement. Du coup, le procès de deux flics donc pour violence volontaire avec arme à feu, contre il y a eu quatre parties civiles, donc, dont Nordine et Meryl, qui étaient... qui se portaient partie civile contre donc, deux flics de la BAC de Stein. Pour vous rappeler un peu l'histoire et ce qui s'est passé, donc c'était en 2021, et en gros les flics ils font une queue de poisson à la voiture de Nordine pour donc arrêter la voiture. Pour rappeler, donc les policiers sont pas identifiés, ils ont pas de gyro, ils ont pas de brassard. Aussi ce qu'a montré un peu ce procès, c'est donc un débat que c'est un véritable cow-boy, littéralement. Il saute d'un capot d'une voiture à une autre voiture et ensuite il essaye de pénétrer dans la voiture en mettant un coup de matraque dans la vitre, la voiture du côté de la portière du côté conducteur. Et donc à ce moment-là, Nordine prend peur et donc il fait une marche arrière. Et donc il y a toujours ce flic qui essaye de, donc cette personne non identifiée clairement, qui essaye de rentrer dans la voiture. Et donc là, qui va, donc les flics vont tirer plusieurs fois. Et donc le flic qui est à la portière va tirer quasiment un bon portant sur Nordine. Nordine a été blessé, il a eu 7 balles dans le corps. Et sa compagne Meryl a été touchée elle aussi par une balle. Elle était enceinte, elle a perdu son enfant. Ils l'ont rappelé pendant le procès, c'était quelque chose d'important pour eux de le redire. Voilà, faut rappeler que direct au moment des faits, enfin direct après les faits, en fait, Nordine il prend 2 ans ferme. Pour refus d'obtempérer. Donc c'est la peine maximale en fait pour refus d'obtempérer. Et donc il est incarcéré directement en fait après ça. Donc voilà, et donc ce procès il intervient donc quasiment 3 ans après les faits. Les flics ont eu bien le temps c'était une instruction donc qui a pris quand même assez longtemps. Et je voulais vous lire donc pourquoi ce procès et du coup là ce que disait enfin le communiqué que le comité de Nordine a écrit sur pourquoi ce procès pour eux était enfin pourquoi qu'est-ce qu'ils espéraient de ce procès. Donc Nordine espère que le procès de ce jeudi 3 octobre 2024 retiendra l'attention médiatique et politique et permettra de remettre cette question cruciale au cœur du débat public, une question de vie ou de mort. Moi je ne suis pas mort physiquement mais ils m'ont volé ma vie, ils m'ont détruit. On ne peut pas accepter que la police tire sur des gens en volant comme ça. Il y a eu trop de drames. Ce procès c'est ma manière de dire qu'il faut que ça s'arrête. Donc voilà, nous on a pu assister au procès que le matin. D'ailleurs si on peut vous donner une très bonne technique qui a très bien fonctionné sur les procès de keuf parce qu'ils étaient en grande masse. Arrivez très tôt, plus tôt qu'eux, et prenez la place. Et en fait, c'est ce qui a marché. Donc, ils étaient, ces collègues qui sont venus vraiment en masse, ils étaient quasiment plus de, enfin, je dirais entre 20 et 25. Il y a que 5 de ces collègues qui ont pu rentrer pour venir les soutenir. Et voilà, et ça s'est pas passé de la même manière l'après-midi, parce que du coup, ils ont fait rentrer les flics, enfin, ils ont coupé la salle en deux, ils ont fait rentrer d'un côté toute une partie de la salle qui était réservée aux flics, donc à peu près 25 flics dans la salle. Ça a changé un peu d'un coup l'ambiance. De toute façon, c'est leur manière de faire numéro un, quoi, c'est de l'intimidation, très clairement. Et après, du coup, les soutiens et la famille, enfin, en fait, qui est rentré, qui a pu rentrer, et même peut-être pas forcément tout le monde en plus. Et donc, il y avait beaucoup de soutien aussi, et donc, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu rentrer dans la salle. La salle était, bien sûr, comme d'habitude, trop petite, hein, comme si les tribunaux n'avaient pas d'assez de grandes salles pour accueillir ce genre de procès.
Ouais, globalement, on sent que les juges, ils savent en fait que c'est un procès médiatique sur lequel il y aura des soutiens et que c'est un peu tendu. Donc c'est pas du tout un truc qu'ils ignorent. Et oups, en fait, il y a une trop petite salle pour que toutes les personnes intéressées puissent assister au procès et soutenir Nordine et Meryl. C'est clairement à chaque fois fait exprès. Et que là, il y avait quand même une grosse police d'audience qui visait à ce que le soutien, il puisse pas se faire, quoi.
Ouais. Et du coup, on n'a pas tout vu de ce procès. Et enfin, du coup, on va pas forcément vous en faire le récit. Et puis de toute façon, enfin voilà, c'est... On sera peut-être dans les prochains jours en contact avec des gens qui ont envie de parler de ça, s'ils ont envie de venir en parler ici ou pas. Mais un truc sur lequel je voulais revenir, c'est aussi la force des gens, la force de Nordine, la force de Meryl, de se retrouver devant deux flics qui ont essayé de les tuer littéralement. Et voilà, d'être devant eux et de leur dire droit dans les yeux ce qu'ils avaient envie de leur dire. Et pour ça, je vais juste vous lire donc, ce que Meryl a dit aux policiers lors de ce procès. Donc elle leur a dit « Aujourd'hui, en 36e, dire qu'ils ne m'ont pas vu, qu'ils ne se souviennent pas de s'être entendus tirer les uns sur les autres, me rend dingue. Parce que moi, ces tirs, je les entends encore au quotidien. Ils m'ont brisé, ils ont brisé notre vie. Aujourd'hui, j'ai peur d'un klaxon, d'une porte qui se ferme, d'un feu d'artifice. Chaque jour, je vois mes cicatrices. Et vous, vous êtes désolé ? Je veux bien qu'on puisse mentir pour se dédouaner de certaines choses, mais il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. On est vivant, on peut témoigner. » Donc voilà. Donc à la fin de ce procès, il y a le procureur qui demande un an de ferme pour les policiers avec bracelet, pas de mandat de dépôt. Et le rendu sera le 7 novembre au tribunal de Bobigny. Le comité de soutien pour Nordine appelle à revenir soutenir. Et en vrai, c'est aussi très important d'être là en masse pour ce rendu.
Ouais, globalement, c'est un peu des trucs qu'on a déjà racontés sur des procès de keuf, que ce soit des procès pour des gens qui ont été blessés ou mutilés pendant des manifestations. On avait par exemple beaucoup parlé du procès du flic qui avait éborgné Laurent Théron à cette antenne, qu'il y a quand même ce truc que les juges et les procs, ils peuvent faire un peu semblant de faire galérer les keufs, à leur poser des questions et tout, mais que globalement, là, les réquisitions qui ont été faites montrent que, toute proportion gardée, ils vont pas non plus être trop dans la merde, quoi. Et donc, on connaît pas encore le verdict, mais il y a quand même ce truc d'avoir une audience avec des keufs prévenus, pour lesquels donc, les réquisitions, c'est genre un an avec bracelet, pendant que Nordine, lui, il est en prison à purger une peine de 2 ans pour ce refus d'obtempérer, où globalement, il a reculé avec sa caisse quand il y a deux fous furieux qui lui ont sauté dessus avec des matraques et en lui tirant dessus, quoi. Donc, c'est un truc qu'on raconte souvent, mais que ça vaut le coup de rappeler. Et donc, on attend le 7 novembre, mais en fait, on sait déjà ce que ça veut dire, quoi.
Oui, puis on sait aussi que la juge leur a quand même beaucoup demandé. En gros, elle disait, vous auriez dû le laisser. Enfin, c'était un refus d'obtempérer. Il en arrive plein, en fait, aujourd'hui et puis depuis longtemps. En fait, vous auriez dû, il n'y avait pas de danger imminent à tirer. Vous auriez dû le laisser partir, et voilà, que ce soit un refus d'obtempérer, comme il en existe plein. Mais en fait, on sait aussi dans ces trucs-là que les juges, ils font un peu semblant d'une espèce de... Parce qu'ils savent que c'est des procès qui sont médiatisés, et donc ils font un peu semblant d'une espèce d'impartialité, ils sont pas du côté des flics, mais en fait, on sait très bien qu'ils sont du côté des flics, et on sait très bien ce que ça fait aussi d'arriver à un procès où, en fait, la personne qui s'est fait tirer dessus, qui a pris 7 balles dans le corps, est la personne qui est aujourd'hui en prison. Et ça, ce que ça renvoie, en fait, même au niveau d'une violence symbolique, c'est... Enfin, ça, voilà, on sait ce que ça signifie, quoi.
Ouais, et juste du coup, l'avocat des keufs, sans grande surprise, c'était Liénard, donc on voit beaucoup dans ce genre de procès, et que lui, il a demandé la relaxe, donc toujours sur la base de cet article, donc j'ai oublié le chiffre, qui permet aux keufs de tirer pour des refus d'obtempérer et qui définit et tout la légitime défense, quoi. Et donc que c'est quand même un truc, et que Liénard, c'est encore une occasion pour lui de tenir son discours sur les refus d'obtempérer, qui mettent tellement les keufs en danger et tout, et de dire que globalement, les gens qui obtempèrent n'ont jamais de problème, ce qui n'est pas hyper sûr, parce que les keufs arrivent aussi à tuer des gens qui obtempèrent, quoi. Clairement. Donc c'est aussi genre ce genre de procès où t'as toujours ce même genre d'avocat qui va dire ce genre de truc, quoi.
Oui, et puis qui fait passer la personne pour la, enfin pour Nordine là dans ce cas-là, pour la personne, enfin il a quand même dit oui, il a les yeux vitrés, il a 22 condamnations, enfin c'est encore lui la personne dangereuse qui a, alors que enfin vraiment c'est aberrant, le flic c'est un putain de cow-boy, enfin il grimpe sur c'est un truc de ouf, mais non, enfin c'est bien sûr c'est Nordine qui est dangereux, quoi. C'est cette réinversion qu'on voit tout le temps en fait, de la victime là qui est partie civile n'est plus une victime, mais voilà, et dans le banc des accusés, quoi.
Du coup, ça ressemble à beaucoup, beaucoup de procès dont on a parlé à l'antenne quand c'est des keufs qui sont accusés. Et du coup, il y a 2 ans, on avait fait une émission où Nordine avait appelé, donc c'était en octobre 2022, si vous voulez réécouter. Et c'était au moment où il y avait ce procès en appel, quand il avait fait appel de sa condamnation à 2 ans d'emprisonnement pour refus d'obtempérer. Il a été recondamné à 2 ans.
Bah, plein de force à eux deux, notamment, et tout. Juste rapidement pour un petit agenda, le dimanche 20 octobre à midi se tiendra à la Tablée à Saint-Étienne, 15 rue Robert, une cantine pour cantiner, voilà, pour une personne, une détenue condamnée à une longue peine à Roanne. Voilà.
Et on voulait faire des petits coucous à Blanche, à Bambina, à Zouzou, à Aurélie, à l'infâme, à Kémy, à Redouane, à Nathan. Et surtout à tous les prisonniers, les prisonnières et leurs proches. On vous envoie plein de force.
Force, courage et détermination. Rediffusion mercredi matin à 8h30.
Et il n'y a pas d'arrangement.
On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Dixit, l'arc-en-ciel. À 17 ans, j'étais en tôle, j'étais puceau chaque matin. Au sursaut du lit, un mat châtain. Lève la main, fais signe de vie. Lève la main, fais signe de vie. Chaque matin, un mat châtain au charme atteint. Lève la main. À 17 ans j'étais en tôle, j'étais puceau chaque matin. Au sursaut du lit un match atteint. Lève la main, fais signe de vie.